RCF.
Aborder la question des femmes et de l'Église telle que vous le faites, Anne-Marie Pelletier, est un exercice encore un peu périlleux. D'ailleurs, dès le début du livre « L'Église et le féminin » paru chez Salvatore et dont vous êtes l'auteur, vous prévenez, la démarche comporte forcément une note offensive et c'est forcément ébranler un consensus, mettre en péril un ordre reçu. Ensuite, vous abordez le problème de manière assez frontale, en vous appuyant sur les textes bibliques, en convoquant l'anthropologie et en revisitant la tradition. C'est aussi ce que nous allons faire dans ces entretiens avec vous. Vous êtes professeur en sciences des religions et professeur émérite des universités et vous vous intéressez de façon particulière à la question du féminin à l'aune de la révélation biblique, un thème auquel vous avez accordé plusieurs ouvrages. Vous n'êtes pas historienne à proprement dit, Anne-Marie Pelletier, mais nous allons quand même essayer de parcourir avec vous 2000 ans d'une histoire marquée par la mise à l'écart du féminin, il faut bien le dire, à la fois dans la société, et c'est le sujet de votre livre et de ses entretiens, dans l'Église, bien sûr. Tout d'abord, d'après vous, est-ce que le contexte sociétal et ecclésial actuel favorise ce genre de publication-là que j'ai sous les yeux, donc « L'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'Évangile », un livre paru chez Salvatore?
Oui, j'ai envie de dire que oui. Le moins qu'on puisse dire est que le contexte se prête à cette interrogation et je crois même qu'il appelle cette interrogation. Nous avons tous la tête pleine de l'actualité de l'Église, tellement chaotique et difficile. Il s'agit d'y répondre, hein. Il s'agit d'entendre ce qui se dit, ce qui se passe, et autant que faire se peut d'y répondre. Et je crois qu'une manière d'y répondre, c'est certainement d'aller regarder du côté du féminin des relations que l'Église, au long de son histoire, a entretenues avec les femmes.
Pourquoi est-ce que cette piste est intéressante et pertinente dans le contexte de crise globale que vit l'Église et dans laquelle, évidemment, on va dire que celle des abus est en quelque sorte l'acmé de cette crise?
Il se dit beaucoup hein, en ce moment, et je crois que c'est profondément juste, que la crise à laquelle nous faisons face est systémique. Voilà, systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il ne s'agit pas simplement de quelques individus au sein de l'Église qui auraient erré, et c'est un euphémisme, mais finalement que ce qui est en cause dans le temps présent, c'est un certain ordre ecclésial. Donc c'est une certaine construction théologique de l'Église et sa mise en œuvre à travers des institutions. C'est cela qui aujourd'hui nous apparaît problématique, qui nous apparaît en fait profondément malade. Et dans cet ordre ecclésial, bien sûr, est impliquée la relation entre les hommes et les femmes, la place qui est faite aux femmes. En réalité, les femmes, on n'a pas à leur faire de la place, elles y sont, ô combien et combien nécessairement. Mais la reconnaissance de cette place, évidemment, est aujourd'hui problématique.
Est-ce que vous faites une distinction entre les femmes et le féminin? Parce que dans votre livre, vous parlez, d'ailleurs c'est le titre, hein, c'est pas l'Église et les femmes, c'est l'Église et le féminin.
Oui, bon, c'est pas sans rapport, bien évidemment, mais j'entends là rejoindre quelque chose de ce face-à-face fondamental, anthropologiquement fondamental, entre le masculin et le féminin. Alors, bien sûr, les femmes sont incluses dans ce féminin, mais il me semble que le terme permet de problématiser plus profond. Il y a du féminin, il y a du masculin qui sont censés se rencontrer, alors à travers des hommes et des femmes, et je dis bien des hommes et des femmes au pluriel, alors que la tentation tout au long des débats aujourd'hui, hier, c'est tout de même d'essentialiser les femmes, de les arracher au pluriel de la vie réelle et d'en faire la femme.
Femme.
Oui,
mm-hmm.
Avec un grand F éventuellement.
Et éventuellement parfaite aussi, si on peut.
Oui, oui.
Selon
oui.
un certain critère de perfection.
Ou parfaite ou dangereuse et périlleuse pour les hommes dans l'Église.
Quelle est la problématique au fond? Selon vous, actuellement dans l'Église, par rapport aux femmes? Si vous deviez résumer ça en une ou deux phrases.
Oui, c'est toujours un exercice difficile et périlleux parce que simplifiant. Je crois que l'Église est impactée et heureusement impactée par une évolution de nos sociétés. Enfin, je dirais, les femmes acquièrent de la visibilité. Et ce souci des femmes difficiles qui affrontent à des réalités dures, mais que justement on ne voulait pas voir, ce souci des femmes aujourd'hui rejoint l'institution ecclésiale et l'oblige à voir ce qu'elle n'avait pas toujours voulu voir et à revisiter un certain nombre de ses discours.
Et donc vous, dans ce livre, c'est ce à quoi vous invitez. Soulever cette question qui a été soigneusement évitée pendant des siècles.
Oui,
et vous, vous dites, aujourd'hui, il est temps et il est nécessaire absolument et même urgent de se coltiner cette question.
Oui, alors nous ne pouvons plus nous dérober, c'est trop clair. Reste à savoir comment nous allons nous saisir de cette question. Nombre d'entre nous ont en tête cette mise en garde par le pape François qui dit attention de ne pas raisonner en termes simplement fonctionnels. Donc si j'entends bien, ne nous contentons pas de débattre de place institutionnelle ou de rôle institutionnel. Alors oui, j'entends, mais s'il s'agit d'aller au-delà de ce fonctionnel, moi j'ai envie de dire, essayons justement de creuser plus profond et d'aller voir comment tout au long de l'histoire de l'Église, deux millénaires d'histoire, des préjugés ont pris corps, des stéréotypes se sont inscrits dans les imaginaires, tout cela faisant que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Et au fond, l'idée de ce livre, c'est d'aller visiter ce passé et à travers cela, peut-être, de contribuer à déconstruire un certain nombre de ces préjugés pour s'émanciper, justement, de ces difficultés et pouvoir aller de l'avant.
Anne-Marie Pelletier, commencer à examiner l'histoire de l'Église, est-ce que ça commence dès l'Évangile ?
Je pense que oui, certes oui. Oui, oui. Et il y a, bien sûr, il y a beaucoup à apprendre en remontant dans le temps et bien sûr en commençant par voir ce qui se passe dans les Évangiles. Je dirais au-delà des évidences que l'on peut avoir, des évidences que l'on a eues au long du temps.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le féminin et les femmes sont présentes dans les Évangiles.
Eh bien oui, oui. Et beaucoup plus que l'on en avait idée. Et cela, c'est l'occasion de faire une belle expérience de fréquentation des Écritures. C'est-à-dire que lorsqu'on les fréquente avec des questions eh bien, qui sont les nôtres, qui sont celles de notre société, on s'aperçoit qu'elles répondent à ce questionnement et on s'aperçoit que tout d'un coup émergent du texte biblique et du texte évangélique des réalités qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant.
C'est-à-dire que non seulement elles sont présentes dans les textes, mais ce qu'on nous en dit tente à les valoriser, à leur donner une importance. Le Christ ne cesse de dialoguer avec elles, elles l'accompagnent, elles le suivent.
Elles sont là, effectivement, dans cette suite du Christ, d'ailleurs un peu énigmatique, parce que des hommes suivent le Christ au long de sa prédication et de son ministère public, ça se conçoit. Que des femmes emboîtent le pas, c'est quand même beaucoup plus surprenant. Et donc là, c'est vrai que nous sommes en présence de ces femmes qui suivent et qui servent Jésus, d'une certaine manière, en rupture avec les conventions du temps, peut-être un peu, oui, en rupture avec les obligations familiales qui sont censées leur revenir. Il y a quelque chose de très étonnant.
C'est un peu transgressif ?
Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et elles sont là, alors elles ne sont pas appelées par Jésus, mais elles sont accueillies par lui, ô combien.
C'est-à-dire que c'est elles qui, en général, vont au-devant de lui Et lui, il les accueille,
il les accueille sur son chemin. On a manifestement le témoignage dans les Écritures qu'il les enseigne au même titre que les disciples, hein, au matin de la résurrection. Voilà, l'ange qui se manifeste aux femmes qui se rendent au tombeau. Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il vous a enseigné, etc. Donc, elles ont été à l'écoute de Jésus, hein, bien sûr, comme de vrais disciples, même si elles ne portent pas le titre de disciples.
Alors, ce que vous venez de dire est quand même très important, Anne-Marie Pelletier. Peut-être que le moment le plus important de la révélation, de l'histoire de la révélation, c'est au matin de Pâques, lorsque le Christ ressuscité envoie les femmes. La tradition dit qu'il y en a une en particulier qui est envoyée, c'est Marie de Magdala, oui, annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Oui.
Selon une formule de la tradition, Marie de Magdala est apôtre des apôtres, ce qui n'est quand même pas rien. On l'a un peu oublié, on l'a même totalement oublié, hein, en recomposant cette figure de Marie-Madeleine d'une façon fictive et un peu désastreuse, en faisant une pécheresse que l'on montre dans le repentir et dans l'humiliation. Pas du tout, Marie-Madeleine, c'est pas ça, et c'est elle donc qui est porteuse de cette nouvelle « Va dire à mes frères hein, ». Voilà.
De manière un peu globale, on peut dire que dans l'Évangile, la façon dont la femme est présentée et dont il en est question, est quelque chose qui est en rupture avec l'ordre établi de cette époque-là ?
En rupture avec l'ordre établi ou tout simplement en écart avec les pratiques ordinaires. On vient d'évoquer Marie-Madeleine, mais il y a d'autres femmes dans les évangiles qui sont en des positions stratégiques. Alors peut-être aussi, oui, parfois transgressives. C'est aussi le cas de la cananéenne. Hein, voilà, donc cette femme de l'extérieur, cette femme païenne, qui d'une certaine manière vient décaler Jésus de son chemin et l'ouvrir sur la mission vers l'extérieur.
Femme de Samarie.
Oui, bien sûr, la Samaritaine, c'est aussi, je ne sais pas, la veuve du temple. Hein. Voilà, typiquement une femme qui représente un statut d'humiliation, d'humilité et d'humiliation dans ce monde que personne ne regarde, sauf Jésus. Il la voit et il la montre à ses disciples.
On a rappelé précédemment avec vous, Anne-Marie Pelletier, à quel point les femmes et le féminin sont présents dans les textes évangéliques, à quel point les femmes sont auprès de Jésus, l'entourent, le suivent, le servent. Est-ce que ça se poursuit après la résurrection et dans les toutes premières communautés chrétiennes? Qu'est-ce qu'on nous dit de ces femmes et de leur place dans ces communautés naissantes?
Alors, il faut lire les textes et les textes du Nouveau Testament qui nous donnent accès à la vie de cette première communauté. Donc, il faut lire les épîtres de Paul en particulier et se confronter à un certain nombre de paroles très dures. Alors, c'est généralement cela que l'on a retenu. Donc, les entendre, essayer de les comprendre. Là, je crois qu'il y a tout un travail aujourd'hui de compréhension à faire.
Dure vis-à-vis de qui ?
Vis-à-vis des femmes. Hein. Donc, que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes sont
soumises à leur mari.
Que les femmes soient soumises à leur mari.
Hein. Donc, des propos plutôt misogynes. Hein. C'est d'ailleurs la réputation qu'il a, Paul.
Oui, alors je crois que, et à regarder de près, c'est une réputation qu'il faut corriger, car d'ailleurs un certain nombre de ces textes qui sont effectivement misogynes n'appartiennent pas directement à la prédication de Paul, mais à ceux qui ont été dans sa mouvance, qui ont pu lui succéder. Il n'empêche que c'est écrit tout de même sous l'autorité de Paul.
Et ça n'a pas échappé à certains.
Bien entendu. Alors, je dirais que c'est les textes que l'on a retenus dans la mesure où ils étaient très arrangeants pour un ordre misogyne qui a perduré jusqu'à nous dans l'Église. Donc, c'est évidemment très précieux de pouvoir brandir les Écritures pour justifier la soumission des femmes.
Ceci dit, les textes de Paul ne sont pas tous de cet ordre-là quand il s'agit des femmes.
Alors, c'est là qu'il faut être bon lecteur et lire dans le détail. Et c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Là encore, nous avons le témoignage de ce que notre moment présent permet de lire des choses qui avaient été ignorées précédemment. Et donc, quand on y regarde bien, on s'aperçoit que, effectivement, dans l'entourage de Paul, dans l'entourage immédiat, il y a des femmes et des femmes qui participent à la mission.
Donc, sous quelle forme ?
Eh bien, par exemple, lorsque Paul se présente dans la ville de Philippe, eh bien, il est accueilli par une femme, Lydie, qui va avoir un rôle tout à fait décisif dans la naissance d'une première communauté chrétienne dans cette importante ville de Philippe. De même, lorsque l'on lit attentivement les salutations que Paul, Paul formule, en particulier à la fin de ses épîtres, je pense tout spécialement à l'épître aux Romains, on voit défiler un certain nombre de femmes. Alors, ce sont des chapitres que généralement on traverse, que l'on ne lit pas vraiment, et c'est tout à fait dommage, parce que on voit revivre soudain cette communauté chrétienne dans le travail de la mission, dans le labeur de la mission, comme dit Paul, et elle mêle rigoureusement des hommes et des femmes. Donc on voit surgir cette figure de Lydie. On en voit d'autres, justement dans la finale de la lettre aux Romains, comme une certaine Prisca. Prisca et Aquila, c'est un couple, manifestement qui aurait été très proche de Paul, qui l'aura accueilli et qui l'aura aussi devancé dans certaines missions, des missions de prédication, en particulier à Éphèse. Les deux ont été à la manœuvre, si j'ose dire, mais manifestement Prisca a un rôle tout à fait particulier. Donc des communautés chrétiennes ont été évangélisées par ce couple et par cette femme qui, dans un certain nombre de cas, est nommée avant son mari. Ce qui n'est pas tout à fait indifférent, Prisca et Aquila. On voit aussi de cette façon-là désigner une certaine Phébé. Alors Phébé, elle est intéressante en ces temps présents où on débat de la question du diaconat, car c'est elle qui, cette femme, reçoit le titre de diakonos. Donc explicitement, alors que c'est un titre qui n'apparaît pas pour d'autres hommes qui sont dans une mission diaconale. Mais voilà.
Qu'est-ce que ça recouvre comme responsabilité ?
Alors bon, c'est évidemment la question. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière tout ça ? De même, elle est désignée du terme grec de prostatis. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Assistante, mais assistante en quoi ? De quelle manière ? Le débat est ouvert. Manifestement, c'est une femme qui a eu des responsabilités majeures, que Paul reconnaît, il la désigne comme ma sœur. Et il la célèbre. Et de fait, on perçoit bien que Phébé a été porteuse d'une mission de Paul. Paul lui a confié la prédication. Cette prédication a été mise sous l'autorité de cette femme, avec la confiance de Paul.
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, Paul vante à travers ces différentes figures féminines la féminité, ou bien il s'adresse à elle au même titre qu'à toutes les autres personnes composant ces communautés?
Oui, je pense que ce qui me paraît évident et intéressant, c'est ce naturel finalement avec lequel ces femmes sont mentionnées.
Il se justifie pas, quoi.
Qui est le naturel de Jésus aussi. Il vit au milieu d'hommes et de femmes, et manifestement pour lui ça ne fait pas problème. Et pour Paul, on a quand même bien aussi l'impression que ça ne fait absolument pas problème dans l'exercice de la mission. Voilà.
Il va même plus loin, Paul. Il y a un texte fameux dans lequel il dit qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors c'est dans la lettre aux Galates. C'est un petit verset d'une grande densité, donc il faudrait beaucoup plus de temps pour l'explorer, mais il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, c'est-à-dire que la grande séparation entre Israël et les nations est surmontée dans la personne du Christ. Donc, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, C'est-à-dire que là aussi, enfin, cette fois-ci, c'est un partage quand même inique hein, que les sociétés humaines instaurent en leur sein. Et bien, donc, quelque chose de cela est surmonté dans la fraternité à laquelle accèdent tous ceux qui sont dans la suite du Christ. Et puis, il n'y a plus ni l'homme et la femme, hein, dit ce même texte.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça,
qu'il n'y a plus d'homme et de femme ? Ça veut dire, je ne pense pas qu'il faille en faire de Paul le précurseur de certains féminismes qui déclarent que la différence est abolie. L'un est l'autre, comme il se dit quelquefois. Rappelons-nous quand même, la différence entre les sexes, elle nous est présentée dans les Écritures comme une différence de création. C'est le plan de Dieu dans sa source qui articule notre humanité en masculin et en féminin. Mais je pense que ce qu'il faut entendre, dans le Christ, vous tous qui êtes baptisés dans le Christ, dit Paul, voilà, vous êtes tous ensemble institués dans la même égalité baptismale. Alors que jusqu'alors, les femmes n'ont pas tout à fait le même accès à Dieu hein, que les hommes, toujours en retrait, un pas derrière les hommes. Et bien là, cette dissymétrie, cette hiérarchie est abolie. Ensemble, vous avez accès à la plénitude du salut. C'est pour ça que j'aime bien paraphraser cette déclaration de la lettre aux Galates en disant « il y a enfin l'homme et la femme », c'est-à-dire « il y a enfin l'homme et la femme dans la vérité de leur identité de création ».
La notion d'égalité, c'est une notion qui est pertinente dans ce cadre-là ?
Alors bon, c'est un mot qui sonne très 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 contemporain, mais c'est une manière de dire ce que Paul exprime autrement quand il dit « tous ». Vous êtes enfantés dans le Christ à la vie nouvelle. Ce tous égalise évidemment les différences.
Mais c'est révolutionnaire finalement.
Évidemment.
Au vrai sens du terme.
Oui, c'est révolutionnaire. Je dirais que, alors bon, si on veut éviter là aussi du terme trop
connoté.
Je dirais que nous touchons là à la nouveauté chrétienne. Voilà, donc en ce sens-là, oui, c'est du vraiment nouveau. Hein. Oui.
Alors cette nouveauté, qu'est-ce que c'est, de manière plus globale, la nouveauté chrétienne ?
C'est l'entrée dans une vie nouvelle, où les identités sont recréées, recréées dans leur vérité d'origine. Et donc, entre dans cette belle égalité des fils et filles de Dieu, qui par le baptême, ont le même accès à la vie nouvelle.
Alors quand je disais que c'était révolutionnaire, je vais réemployer un terme que vous et moi avons déjà employé aussi, c'est-à-dire qu'il y a un côté transgressif vis-à-vis de l'ordre établi même à cette époque-là.
Oui, enfin, il y a une liberté incontestable, il y a une liberté du Christ, il y a une liberté dans cette toute première communauté, alors qui va se perdre, parce qu'on voit très bien que assez rapidement, le monde ambiant, qui est profondément misogyne, va réinvestir l'espace de la communauté chrétienne.
Ce que le Christ est venu instaurer, annoncer, Anne-Marie Pelletier, c'est une libération finalement, une grande liberté à laquelle nous sommes tous appelés, quelle que soit notre condition, quel que soit notre sexe. Et on va dire que c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que tout ceci s'inscrit malgré tout dans un contexte social, un contexte anthropologique. Et là, dans votre ouvrage, vous vous appuyez, vous faites appel à cette discipline qu'est l'anthropologie pour expliquer pourquoi tout cela n'a pas réussi à aboutir totalement jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui a fait obstacle dès le départ ?
Je dirais d'abord que la révélation biblique, à l'échelle des deux testaments, c'est une parole qui nous rejoint d'au-delà de nous-mêmes, donc parole de Dieu, disons, qui nous rejoint là où nous sommes, dans notre humanité, qui est tout à fait assumée par cette révélation. Donc Dieu ne nous parle pas d'ailleurs en nous attirant ailleurs, mais c'est vraiment dans la lourde pâte de notre humanité que se fait la révélation. Et dans cette lourde pâte, il y a effectivement...
des résistances énormes.
Il y a l'humanité telle qu'elle existe et telle que nous disent les anthropologues, elle s'est probablement constituée depuis l'origine, le vis-à-vis d'un homme et d'une femme, cette mystérieuse différence des sexes, quand même, effectivement, on peut penser qu'elle a dû interroger nos très très lointains ancêtres. Je pense que là, c'est intéressant justement d'entendre les anthropologues. Je pense à l'une d'entre elles, Françoise Héritier, une femme éminente, qui a la chaire d'anthropologie au Collège de France jusqu'à sa mort il y a pas si longtemps, qui montre bien que cette différence sexuelle est absolument fondamentale et structurante dans notre humanité, dans notre perception du monde et notre manière d'être dans le monde. Mais cette différence sexuelle, on a de bonnes raisons de penser que de façon immémoriale, elle a toujours été élaborée sous la forme d'une hiérarchie. Et d'une hiérarchie qui est défavorable aux femmes.
D'une inégalité, donc oui. la notion d'inégalité entre en scène.
Tout à fait. Un homme, ça vaut un peu plus qu'une femme. Il semble bien que ça ait été la conviction générale de tout temps.
Si on va encore plus loin, on peut imaginer que ça s'enracine aussi dans la différence physiologique.
Bien sûr. Mais oui, cette différence physiologique a du poids, a du prix, évidemment. Dès le départ, on peut imaginer que notre humanité a été aux prises avec ce mystère de l'engendrement, de l'enfantement. Finalement, ce sont quand même les femmes qui enfantent. D'une certaine manière, certains diraient privilège exorbitant, d'autant que nous savons bien qu'une femme, c'est capable d'enfanter son identique, d'enfanter des filles, mais c'est capable aussi d'enfanter des garçons. Donc là, il y a incontestablement une réalité mystérieuse, et là encore, les sciences humaines contemporaines attirent notre attention sur le fait que, oui, cette particularité du féminin est certainement depuis toujours déstabilisant et inquiétant pour les hommes.
Alors aujourd'hui, on est capable de l'appréhender, y compris avec les connaissances en sciences humaines que vous venez de citer, notamment la psychanalyse, oui. Etc. Tout ceci est très chargé sur le plan symbolique,
bien sûr. Bien sûr. Et donc, nous sommes aux prises avec tout cela. Comme je répète, cette histoire immémoriale est aux prises avec cette réalité-là. Et finalement, les écritures bibliques, elles aussi, sont traversées par tout cela. Donc, ne nous étonnons pas qu'elles reconduisent à certains égards ce schéma patriarcal, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, du patriarcat. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, et à mon sens vraiment très passionnant, c'est de voir comment, à l'intérieur de ce monde forcément patriarcale, la révélation biblique trace un chemin, traverse tout cela en direction de quelque chose d'autre. Mais de quelque chose d'autre qui reste une tâche pour aujourd'hui. On évoquait précédemment le chapitre 3 de la lettre aux Galates, il n'y a plus l'homme et la femme. C'est pas une évidence d'observation, cette réconciliation des sexes. Ça reste encore un programme.
D'autant que on a parlé d'inégalité, mais il faut aussi souligner ce que d'aucuns appellent la peur de la femme. Cette notion-là, vous l'évoquez dans votre livre, comment est-ce qu'il faut la comprendre et dans quoi est-ce qu'elle s'enracine, dans ce que vous venez de dire là ?
Oui, alors certainement dans ce que l'on vient de dire, ce lien très particulier de la femme à la vie, et au fond, j'ai envie de dire à la vie, à la mort. Enfanter, c'est enfanter un être pour la vie et aussi pour la mort. Donc il y a une proximité des femmes très particulière, je crois, avec ces réalités fondamentales. Et je pense que dans les cultures humaines, les hommes, au sens masculin du terme, se battent un peu avec ça. Et quand la Bible, du coup, dans les premiers chapitres de la Genèse, évoque la création de la femme à partir de l'homme, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à corriger. Et ensuite, évoque une transgression où la femme semble bien être en première place. Évidemment, tout cela alimente le préjugé, l'hostilité à l'égard des femmes, de la femme dangereuse, de la femme qui serait spécialement sensible à la transgression de la parole de Dieu et au péché.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Est-ce que c'est ce qui justifie aussi que la femme soit physiquement mise à l'écart? Vous parlez de la notion d'espace dans la société,
oui,
y compris sûr. Dans les premières communautés chrétiennes.
Oui, alors bon, soyons prudents, hein, mais il est évident que dans la tradition juive, de toute façon, comme dans les autres sociétés, l'espace est l'espace cultuel en particulier, hein, et genré, comme nous disons aujourd'hui. Hein, donc il y a, dans le temple de Jérusalem, il y a un parvis des femmes, hein, il y a des parties qui sont réservées aux hommes. Hein. Et ça là se retrouve bien évidemment dans l'Église au long des temps, d'autant que bah, la femme c'est aussi, alors là ça nous renvoie aussi à des stéréotypes très archaïques, ça nous renvoie à ce tabou sur le sang des femmes.
Le hein, pur et l'impur.
Le pur et l'impur. Hein. Alors ce serait très intéressant de détailler, mais on voit bien comment dans l'Ancien Testament, c'est une question qui est très prégnante dans le livre du Lévitique, en chapitre entier, hein, pour évoquer cette question de l'impureté des femmes. Bon, cette impureté, elle relève d'un préjugé, hein, quelque chose comme ça, donc qui s'enracine dans le tréfonds de la conscience humaine. Donc, elle se retrouve dans ces textes de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, de façon très étonnante, on voit que Jésus passe par-dessus ce tabou. C'est l'épisode de la femme qui perd son sang et qui ose s'approcher de Jésus, hein, contre la loi. Hein. Elle est impure, donc elle doit rester à distance et elle vient toucher le vêtement de Jésus. Elle n'est pas du tout repoussée par Jésus.
Et elle, non seulement elle n'est pas repoussée, mais elle est guérie.
Elle est guérie et elle reçoit ce titre dans la bouche de Jésus, « ma fille bon, ». Ce qui est superbe. Là, on voit combien Jésus est libre par rapport à ce tabou et nous en libère, enfin, est censé nous en libérer. Parce que nous savons bien que, jusque dans le présent, cette affaire de l'impureté des femmes continue à trotter dans la tête d'un certain nombre. Bon, pour évoquer une question anecdotique, mais en même temps sensible et symptomatique, nous savons bien les débats sur l'accès des filles à l'autel. Hein,
Cours de la liturgie.
Oui, au cours de la liturgie.
Très longtemps et encore aujourd'hui.
Oui, on en fait des servantes d'assemblée, mais surtout pas des servantes d'autel.
Ou en tout cas jusqu'à ce qu'elles soient pubères. On voit des petites filles servantes d'hôtel, mais à partir de l'adolescence.
En même temps, c'est tout à fait transparent. De même qu'il y a quelques mois, nous avons été les témoins d'un bouleversement, paraît-il, dans le discours du magistère à propos de l'acolyta et du lectorat. Voilà, tout d'un coup, deux charges qui étaient accessibles aux hommes depuis le concile, hein, y compris à des hommes qui ne sont pas destinés au sacerdoce, tout d'un coup on nous a dit « Ah bah oui, mais les femmes vont pouvoir aussi y accéder », ce qu'elles faisaient d'ailleurs depuis un certain temps, mais voilà. Non, une femme peut assurer le service de la lecture de ce qu'on appelle la première et la deuxième lecture, par exemple. Donc elle peut assurer le service de l'autel, mais la lecture de l'évangile reste l'apanage du prêtre et du diacre masculin, hein, qui reçoit la délégation de lire l'évangile. Tout ça reste quand même très surveillé, très encadré.
Et vous pensez que ça a un rapport avec la question de l'impureté supposée des femmes ?
Plus généralement, c'est pas seulement la question de l'impureté des femmes, mais plus généralement, c'est la question du rapport des femmes d'une certaine manière, oui, au service de l'autel, à la célébration de l'Eucharistie, et ça rapport à toute une tradition qui s'est mise en place au premier siècle de l'Église, à partir du IVe et du Vème siècle, où finalement, il y aurait une convenance réciproque entre la gestion du sacré, en quelque sorte, et puis le célibat.
Est-ce qu'il y a quelque chose de très archaïque dans cette conception des choses ?
Je crois que là, on touche à des choses, effectivement, qui relèvent d'une anthropologie très archaïque, hein, et du coup, qui est difficile à identifier. Et donc, c'est pour ça que c'est important de remonter dans le temps et d'inventorier autant que nous le pouvons, hein, la manière dont ces choses ont coagulé, se sont figées, se sont fixées, et continuent subrepticement à régler nos comportements et finalement des dispositions institutionnelles.
Anne-Marie Pelletier, pendant des siècles, la virginité de la femme a été considéré comme l'État le plus enviable et le plus respectable? D'abord, est-ce que c'est votre sentiment? Et si oui, pour quelles raisons?
Alors bon, je précise tout de suite que je n'ai pas idée de dénigrer cet État qui a été et qui continue à être valorisé dans l'Église. Mais mon souci, c'est tout de même d'aller y voir un peu. Parce que nous savons bien que cette question de la virginité, elle est aujourd'hui posée au-delà des frontières de l'Église, hein, dans d'autres religions. Nous avons quand même plus ou moins entendu parler de ces tests de virginité, hein, qui se pratiquent, hein, dans certaines cultures et que la République française a idée d'interdire. Donc oui, la virginité, là aussi, ça nous confronte à des choses très profondément ancrées dans les cultures patriarcales. Voilà, alors ça nous renvoie aussi, eh bien, à ce contrôle que les hommes exercent ou sont censés exercer ou veulent exercer sur le corps des femmes.
En fait, on tourne autour d'une question là depuis un moment, c'est la sexualité.
Bien sûr, bien sûr. Donc cette question du rapport au corps, du rapport à la chair, enfin au grand sens du terme, hein, bien entendu, hein, mais c'est une question qui est au centre de la condition humaine. Tout être humain est concerné par cette question de la sexualité qui ne se réduit pas à la génitalité ou que sais-je. Enfin, quelque chose vraiment qui est constitutif des êtres de chair que nous sommes et de chair sexuée que nous sommes. Et bien entendu, le rapport homme-femme va être investi, hein, par la conception que l'on se fait de la sexualité ou de l'abstention de la sexualité.
Alors justement, cette société patriarcale que vous avez décrite, est-ce qu'elles ont promu la virginité de la femme ou au moins fait en sorte de maîtriser la sexualité des femmes ?
Alors, dans les cultures ambiantes, je dirais, il faut bien voir que la virginité, c'est l'état dans lequel une femme doit se trouver au moment de se marier. Donc, on n'a pas l'idée que ce serait un idéal pour une vie entière. Donc, dans le monde païen en particulier, c'est tout à fait ça. Pensons aux Vestales à Rome. Bon, elles sont condamnées, d'une certaine manière, à la virginité pour une certaine durée. Dans le, je crois qu'il faut dire que dans le cas de l'islam, qui aujourd'hui repose cette question de la virginité et de l'imposition de la virginité faite aux femmes pour qu'elles soient dignes d'un mari, hein, il ne s'agit pas d'un état permanent. Alors, dans le christianisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir apparaître, et ça fait partie de la nouveauté chrétienne, l'idée qu'il y a une légitimité à ce qu'une femme puisse choisir de ne pas se marier. Et ça, c'est une véritable libération.
Et qu'elle reste vierge.
Alors bon, disons oui. Bon, ne n'entrons pas immédiatement dans cette particularité-là, mais voilà, qu'une femme puisse vivre hors de l'autorité d'un homme, que ce soit son père ou que ce soit un mari.
D'accord, pas pour se consacrer à Dieu alors, pas forcément.
Alors, bon, ça il peut, se trouve que mais... au point de départ, effectivement, ça va être un idéal de vie chrétienne. Hein, et donc, ces premières générations sont aussi imprégnées par la parole de saint Paul, qui, débattant de mariage et virginité, conseille plutôt de rester dans l'abstention du mariage. Alors, pour des raisons, je dirais, un peu pratiques, hein, oui, ou l'occasion de concentrer tout son désir et tout son amour sur Dieu. Voilà. Donc ça a certainement joué. Et au IVe siècle, par exemple, où cette question de la virginité prend un relief tout particulier, on a des exemples de femmes qui, de fait, décident de demeurer hors mariage et de se consacrer à Dieu. Donc, c'est des femmes qui ont l'initiative, hein, de cet état de virginité. Ces femmes optent pour cet état de vie en toute liberté. Hein, et ça donne, de fait, un certain nombre de beaux portraits de femmes. Je pense à Macrine, hein, la sœur de Grégoire de Nice, un des pères de l'Église, hein, une maîtresse femme et qui est célébrée d'ailleurs par son frère et qui est restée comme une belle figure de sainte. Alors, ce qui se passe aussi dans le même temps, c'est que tout cela va aboutir à l'élaboration d'une théologie ou d'une spiritualité de la virginité et de la virginité des femmes,
Donc, élaboré par qui?
Élaboré par des hommes, évidemment. Voilà. Ce sont des hommes qui parlent, ce sont des hommes qui célèbrent cette virginité des femmes. Et c'est là que, évidemment, on a quelques raisons d'être un petit peu soupçonneux. Les textes de saint Ambroise on peut les trouver superbes, mais il y a une espèce d'exaltation, en tout cas qu'une femme peut trouver étrange et peut-être un petit peu douteuse. Le corps d'une femme vierge, quelle merveille, c'est quasiment une vie angélique.
La suite de l'histoire.
Et la virginité de Marie, est-ce qu'elle vient conforter, confirmer aussi cette vocation supposée d'un certain nombre de femmes à une virginité permanente?
Oui, bien entendu. Et dans cette élaboration de la virginité chrétienne, la figure de Marie a un rôle tout à fait essentiel. Marie qui enfante de façon virginale. Alors ça nous est dit dans les évangiles, j'aime bien quand même souligner que ça nous est dit avec beaucoup de discrétion. Il y a peu de détails sur Marie, les évangiles sont d'une étonnante discrétion sur tout ça. Le peu qui nous est dit va mettre en branle, je crois, tout quand même, oui, j'ose dire, j'espère ne pas choquer, mais tout un imaginaire qu'il faut aujourd'hui réinterroger. Cette virginité de Marie, elle va être célébrée, elle va être déployée par un certain nombre d'auteurs chrétiens, de théologiens chrétiens dès les premiers siècles. On va parler de la conception virginale, mais on va ensuite dire que l'accouchement ne rompt pas l'hymen, donc Marie reste toujours dans la virginité, et on va même affirmer une virginité perpétuelle de Marie, ce dont les textes ne disent évidemment rien. Donc, à titre vraiment personnel, mais que j'ai le sentiment d'un certain emballement de l'imaginaire. Alors, il est quand même significatif de voir que Marie de Nazareth, mère de Jésus, qui va être proclamée mère de Dieu, etc., va
Théotokos.
Théotokos, mais elle va finir par être simplement la Vierge avec un grand V. Et cette virginité absorbe le tout de l'identité de Marie.
C'est comme si ça devenait son identité totale.
Oui.
On oublierait presque qu'elle est la mère de Jésus.
Oui. Et on voit bien comment, dans le même temps, la manière dont on parle de la virginité va mettre de plus en plus l'accent sur l'intégrité physique. Alors que là aussi, toute la tradition biblique nous inviterait à complexifier les choses. La virginité, c'est une qualité du cœur, et pas simplement une disposition physique.
Alors, cette valorisation, survalorisation de la virginité, est-ce qu'elle se fait au détriment de l'état de vie conjugale ?
Alors, il est très clair dans les textes du 4e, du 5e siècle qu'on met en compétition la virginité et le mariage au détriment du mariage. Et on a pu faire la démonstration que l'histoire de ces premiers siècles dans le christianisme, ça va être, comme dit un auteur, un renoncement à la chair, un renoncement progressif à la chair. Et donc on va avoir cette évidence qui va s'imposer qu'il y a une corrélation forte entre sainteté et célibat. Et ce qui concerne les femmes va être transporté aux hommes qui sont en charge de l'action sacramentelle. Et c'est ainsi que petit à petit, le célibat des prêtres va s'imposer, enfin je dirais petit à petit, lentement, puisque pendant des siècles, on va avoir un clergé marié.
Jusqu'au 11e siècle, non, c'est
oui,
ça ?
Oui, alors plus ou moins contesté. Il y a tout de même cet idéal qu'un clergé marié, ce sont, comme dit saint Jérôme, ce sont des supplétifs quand on manque de prêtres célibataires.
Mais ça s'enracine dans quoi, cette fascination pour la virginité et ce dénigrement de la vie conjugale dans l'évangile? Il y a quelque chose à un moment donné qui laisse supposer que Jésus est venu aussi pour valoriser cet état de vie.
Jésus n'est pas mariée. Donc ça, c'est un fait et c'est aussi un signe de liberté par rapport aux habitudes de son temps. Mais je pense que ça ne dit pas plus. Il n'y a aucun mépris de Jésus à l'égard de, justement, à l'égard des femmes, avons-nous dit, à l'égard de la chair, ô combien. Il y a au contraire une étonnante liberté de Jésus à l'égard.
Oui, il se laisse toucher.
Oui, tout à fait. Et c'est, on est au cœur du mystère de l'incarnation. Voilà. Et c'est très étonnant d'ailleurs que la religion, qui est par excellence la religion de l'incarnation, à penser la chair de façon positive, paisible et heureuse.
Donc, globalement, ça ne repose pas spécialement sur des faits ou des versets d'évangile. C'est plus une interprétation qui a été faite au fil des siècles, une théologie qui s'est élaborée par des hommes pour servir la cause des hommes.
Bon, on peut dire les choses comme ça de façon peut-être brutale et simplifiante. Je dirais que... Oui, je le répète, la sexualité est toujours un problème dans l'humanité. Et il y a une certaine manière dans la tradition de l'Église de la contourner ou de la sublimer qui fait que du coup, on ne l'a pas assumée véritablement et on ne l'a pas pensée positivement. Et on sait bien que le refouler, parce que c'est quand même un peu de ça dont il s'agit, quand le refouler revient, ça peut faire des dégâts.
Sublimer, c'est une chose, mais tout le monde n'y parvient pas. La vraie sublimation, c'est un processus qui peut exister quand même.
Oui, tout à fait. Bon, qui peut être réussi, mais qui peut être aussi, enfin, je crois, qui est incontestablement un combat. C'est pas cette sublimation, ça n'est pas s'évader simplement dans un univers spirituel et réel.
Et quand elle échoue, vous le disiez.
Eh bien, quand elle échoue, ça peut être désastreux.
Anne-Marie de Pelletier, l'idée d'un spécifique féminin a-t-elle été véhiculée au cours des siècles et est-ce qu'on en serait les héritiers encore aujourd'hui ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est une notion qui tient une grande place dans le discours de l'Église catholique et dans le discours du magistère. Bon. Alors, ce n'est pas une spécialité du christianisme.
Mais le christianisme est concerné aussi.
Oui. Le catholicisme, tout spécialement, qui quand même, depuis quelques décennies, parle beaucoup des femmes.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par spécifique ?
J'ai envie de dire que les hommes ont toujours eu tendance à dire aux femmes qui elles étaient, et ce qu'elles doivent être. Voilà. Et donc... notre culture a élaboré une certaine vision de la femme en lui accordant une identité, l'identité que les hommes lui voient et veulent lui voir. Alors, pendant quand même très longtemps, ce spécifique féminin, je dirais qu'il a été dominé par la méfiance et quand même, oui, en gros, par pas mal de malveillance. C'est-à-dire que... En monde chrétien, on garde en tête les premiers chapitres de la Genèse tels qu'on les a interprétés très vite, en tordant, je crois, le sens de ces récits. Et là aussi, c'est une grâce du temps présent que nous sachions relire ces textes-là et les lire autrement. Mais quand même, ce que l'on a entendu, ce que l'on a voulu entendre dans ces textes de la Genèse... c'est que les femmes sont faibles à la tentation. C'est quand même le serpent, quand le serpent vient contester la parole de Dieu, il s'adresse à la femme en priorité. Donc les femmes sont faibles et les femmes sont dangereuses, puisque c'est Ève, comme on dit, qui entraîne Adam dans la chute. Voilà. Alors au passage, j'ai envie tout de même de dire et redire que ces textes de la Genèse ne sont d'aucune manière des textes qui doivent être lus sur un mode réaliste, bien entendu. Alors que combien de fois on entend encore aujourd'hui parler d'Adam et Ève et du premier couple, voilà, comme il fallait leur attribuer une identité ordinaire.
Et inscrite dans l'histoire, il n'y a rien aujourd'hui de scandaleux à dire que ces textes sont des textes mythiques.
Les mots sont tout de suite brutaux et gênants. Enfin, ce sont des textes de facture mythique au grand sens du mythe, qui n'est pas un discours disqualifiant, hein, ou disqualifiés. Hein. Mais oui, ces textes ont, ont partie liés au mythe, tout simplement parce qu'ils nous parlent de l'origine. Et l'origine, elle est rigoureusement inaccessible à tout le monde. Hein. Et donc, aucun langage réaliste ne peut parler cette origine. Donc, pour en dire quelque chose, pour sonder quelque chose, à partir d'ailleurs de notre expérience présente, il faut avoir recours à ce langage très particulier, hein, qui n'est pas un langage simplement de fiction, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de symboliser quelque chose d'une origine inaccessible.
La suite de l'histoire.
Anne-Marie Pelletier, est-ce qu'à travers les siècles, des femmes, mais surtout des hommes, puisque c'est finalement eux qui étaient instruits et qui avaient la possibilité de s'exprimer, ont contribué quand même à interroger cet ordre établi, ces préjugés, ces idées toutes faites sur la femme et le rôle qui lui était attribué dans l'Église? Ou bien c'est vraiment très récent?
Je dirais dans la mesure où la théologie et la lecture des textes a été une affaire d'hommes, on comprend qu'il n'ait pas été franchement gêné par ces interprétations défavorables aux femmes. Au contraire, enfin, ils arrangeaient, hein, tout ce monde masculin qui disait la foi, qui parlait la foi en leur nom, et parce qu'ils étaient des hommes, voilà, au nom des femmes aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas d'attestation d'une contestation, hein, de ces interprétations défavorables aux femmes au long de la tradition. Et il faut que, voilà, surgisse à l'époque contemporaine ce regard féminin sur les textes, cette pratique féminine des textes, pour qu'on se mette à questionner et à contester des interprétations.
Est-ce que l'Église est prête? La société, elle, bouge très vite, évolue très vite. Est-ce que l'Église, elle, aujourd'hui, est en mesure d'entendre ces contestations et d'accompagner ces interrogations?
Écoutez, j'ai envie de dire qu'il s'agit simplement d'être intelligent dans toute cette affaire-là, c'est-à-dire de lire intelligemment les textes. J'aime bien dire que le problème de la Bible, c'est de trouver des lecteurs aussi intelligents qu'ils sont intelligents. Et je veux dire par là que lorsque l'on questionne ces textes de la Genèse, on s'aperçoit qu'ils sont extraordinairement fins et intelligents. Alors, ils peuvent être lus à charge pour la femme, comme on dit, mais ils disent autre chose aussi. Et si on veut bien lire, on doit pouvoir rejoindre un discours où une femme peut se retrouver.
C'est possible de les lire à frais nouveaux, comme si on les découvrait?
Bien sûr, il faut. D'abord, il faut toujours lire les Écritures à frais nouveaux, car les Écritures sans cesse renouvellent leur sens. Et justement, lorsque on les met sous la lumière de nos questions, de nos préoccupations d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles se mettent à parler, et à parler là où on ne les avait pas entendues.
Et alors, si on les relit, si on les redécouvre, on les lit à frais nouveaux, qu'est-ce qu'on fait de la tradition?
Ah, ça, c'est un grand mot, la tradition.
Vous commencez par ça dans votre livre?
Oui. Alors, attention, la tradition, il y a la tradition avec un grand T, si j'ose dire, et qui n'est pas... Cette tradition-là, c'est un mouvement, hein, c'est une dynamique, c'est l'acte de transmission de la foi de génération en génération. Donc, c'est l'attestation que fait celui qui me transmet le livre, que voilà le lieu de la vie. Voilà. Donc c'est pas du tout quelque chose de figé. Mais cette tradition, oui, elle est accompagnée de traditions très humaines, au pluriel, qui, elles, eh bien, charrient beaucoup de stéréotypes.
Ça demande du discernement, justement, pour repérer ce qui toucherait vraiment aux fondamentaux de la foi chrétienne et ce qui toucherait, si on envisageait des réformes, de nouvelles façons de vivre en Église, ce qui toucherait à des comportements qui, finalement, eux, sont très liés aux sociétés, quoi.
Et... Oui, alors je pense que ça, c'est une tâche urgente qu'il faut que nous fassions. Voilà. Donc, vous parlez de discernement. Je crois que le mot est très, très juste et très important. Il y a un travail d'intelligence spirituelle à faire pour ne pas confondre des traditions simplement humaines avec la grande tradition. Mais c'est quelque chose qui est déjà en jeu dans les évangiles. Jésus reproche à certains de ses interlocuteurs justement d'en rester à des traditions humaines qui leur font oublier finalement le grand essentiel de la relation à Dieu.
Est-ce que ça veut dire, selon vous, que le christianisme n'a encore pas été vraiment reçu ? Comme on reçoit les textes d'un concile, par exemple, oui. Et que la conversion, elle est loin d'être faite. Et...
J'en suis profondément convaincue. Nous n'avons pas encore vraiment entendu ce que dit l'Évangile en plénitude. Alors bon, bien sûr, l'Évangile a été reçu au long de l'histoire de l'Église et a été une énergie de sainteté, hein. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup à entendre et je dirais que l'institution doit se laisser impacter par cette parole de l'Évangile.
Vous êtes une militante ? Vous vous définiriez comme ça ? Militante féministe, par exemple, au sein même de l'Église ?
Militante féministe, non, j'aime pas trop ça, parce que ce vocabulaire guerrier, parce que c'est ça la militance, hein, ça me convient pas, pour la raison que je vois pas que ce soit le langage de l'Évangile. Hein. Mais en revanche, oui, essayer de tenir un certain nombre de réalités qui me semblent le propre de la tradition biblique est tellement importante dans le monde dans lequel nous vivons. Alors là, oui, j'ai envie, s'il faut reprendre quand même du vocabulaire guerrier, j'ai envie de me battre pour.
Merci beaucoup Anne-Marie Pelletier.